Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, dans la première partie de notre émission, nous continuons notre série sur le psaume 23. Didier sera de retour pour en discuter en compagnie de Yann. Ensuite, pour notre courte méditation biblique, nous reviendrons sur la première lettre de Jean et Claude nous fera part de ses réflexions.
Avant d'accueillir Didier, Sandre va nous lire le psaume 23. Cédons-lui tout de suite la parole.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table. Aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai.
Merci. Didier, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann, et bonjour à tous.
Nous avons appris que David, l'auteur du psaume 23, bien avant de devenir roi sur Israël, il était berger. David, de par son expérience, peut nous aider à comprendre à travers ce psaume en quoi Dieu est notre bon berger.
C'est vrai, Yann. Et nous continuons à nous pencher sur ce psaume en examinant un verset lors de chaque nouvelle émission.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le verset suivant. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe.
Merci Yann. Dans ce verset, David, l'auteur du psaume 23, change d'illustration. Jusqu'à présent, il a parlé de Dieu en le comparant à un berger. Tandis que ce verset nous présente une personne importante, offrant son hospitalité et sa protection à un voyageur poursuivi par ses ennemis.
Quel est alors le sens spirituel de ce verset ?
Prenons d'abord l'image de l'hospitalité. Ce verset évoque un hôte qui réserve un bon accueil à son invité en lui servant un repas copieux. Dans la plupart des cultures, l'hospitalité tient une place importante dans les bonnes mœurs. Assister à un repas, c'est participer à un geste d'amitié et de communion. C'est approfondir et entretenir une relation personnelle. Et puis, prendre part à un repas là où des différends et des disputes existent, va favoriser la réconciliation et donner un nouveau départ à une relation auparavant brisée. Sur le plan spirituel, cette image du repas abondant nous rappelle que Dieu nous accueille les bras ouverts et nous offre la possibilité de vivre une relation personnelle avec lui. Cette image de l'hospitalité oriente nos regards vers ce Dieu généreux, ce Dieu de grâce qui veut vivre une amitié avec nous. C'est aussi l'image du Dieu qui est prêt à pardonner aux hommes leurs péchés quand, par la foi et dans l'humilité, ils décident de marcher en sa présence. Dieu ne ferme pas la porte à ceux qui s'approchent de lui dans la repentance. Non, il les accueille et les invite à demeurer auprès de lui.
Cela me rappelle la parabole du fils perdu que Jésus a racontée. Ce fils avait déshonoré et humilié son père avant de partir de la maison pour mener ailleurs une vie dissolue. Cependant, le jour est arrivé quand ce fils a sombré dans le malheur. Lorsqu'il a réalisé le mal qu'il avait commis, il a alors décidé de retourner auprès de son père, mais en lui demandant de le prendre comme serviteur dans sa maison. Le père, toutefois, l'attendait sur le chemin du retour, et il lui prouve par son accueil qu'il lui pardonne et qu'il le considère toujours comme son fils. Enfin, ce père prépare un grand banquet, abondant et somptueux, pour célébrer le retour à la maison de ce fils perdu, mais aussi pour marquer une nouvelle étape dans leur relation.
Oui, voilà une belle histoire dont la leçon à retenir est similaire de celle qui se dégage du psaume 23. Celui qui pratique l'hospitalité offre aux voyageurs poussiéreux, affamés et assoiffés, de quoi se laver, se nourrir et s'abreuver. De la même manière, Dieu répond avec largesse à ceux qui ressentent de la lassitude ou qui vivent dans le remords dans leur vie de tous les jours. Si nous ployons sous un fardeau de culpabilité ou que nous sommes abattus par de lourdes épreuves, Dieu nous accueille et Dieu veut nous offrir ce qu'il y a de meilleur, une relation privilégiée avec lui qui répand la paix et nourrit l'espoir.
Merci d'insister sur ce point. Mais le verset lu déclare aussi que ce repas a lieu en la présence d'ennemis. Comment comprendre ce détail?
Nous pouvons imaginer le scénario suivant. Des malfaiteurs dans un village ne cessent de harceler l'un de leurs voisins. Ce dernier, de peur de perdre sa vie, décide de prendre la fuite. Il s'enfuit alors et traverse, sans savoir où il va, des lieux arides. Mais voilà que ses ennemis se mettent à le poursuivre. Tout à coup, cet homme en fuite arrive dans une oasis où il découvre une importante caravane. Le marchand, remarquant l'état lamentable de l'homme, décide de l'accueillir dans sa tente et s'occupe de lui généreusement. Mais peu de temps après, les hommes qui poursuivaient notre ami arrivent eux aussi dans l'oasis et ils le voient confortablement assis devant la tente du marchand, en train de se régaler d'un repas somptueux. Les malfaiteurs voudraient bien s'emparer de lui, mais des hommes costauds et bien armés assurent la sécurité de la caravane. Et, sous les ordres du marchand, ils ne permettent pas aux malfaiteurs de s'approcher de notre ami. Au contraire, ils les obligent à repartir. Le voyez-vous ? Le marchand a non seulement nourri notre ami, mais il l'a mis sous sa protection. Et ses ennemis ne peuvent plus l'atteindre.
Et quelle est donc la leçon spirituelle à retenir ?
Quand Dieu nous accueille pour vivre cette relation privilégiée avec lui, il nous assure sa protection et certains de nos ennemis ne peuvent plus nous atteindre.
Mais de quels ennemis s'agit-il ? Car nous constatons bien que dans ce monde misérable, les chrétiens ne sont pas forcément à l'abri du malheur. Le chrétien n'est épargné ni de la violence ni de la tromperie de ceux qui souhaitent lui faire du mal.
Vous avez raison, Yann. Ce verset parle plutôt de la force de notre relation avec Dieu et du fait que nous vivrons avec lui éternellement. Notre grand ennemi est Satan. Et par ses mensonges, il cherche à nous contrôler, à nous aveugler et à nous détruire. Cependant, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, Satan n'a plus les mêmes droits sur nous qu'auparavant. Notamment, il ne peut plus nous empêcher de jouir de la bénédiction que Dieu a décidé de nous offrir, c'est-à-dire vivre une relation d'amour avec lui qui durera à jamais. Pour conclure, je voudrais citer la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 31 à 39. Car ici, Paul formule cette même pensée. Cédons donc la parole à notre lectrice, et je vous dis dès à présent, au revoir et à la prochaine.
Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse ? La persécution ? La faim ? La misère ? Le danger ou l'épée ? Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Et rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Merci. Notre invité Didier sera de retour la prochaine fois pour aborder le dernier verset du psaume 23. En attendant, c'est le moment de passer à notre courte méditation biblique. Nous revenons sur les écrits de l'apôtre Jean. Dans quelques instants, Claude nous fera part de ses réflexions. Mais avant de lui céder la parole, Sandra va nous lire un extrait de 1 Jean, au chapitre 4, les versets 14 et 15.
Nous l'avons vu de nos yeux, et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
L'apôtre Jean écrit à des chrétiens troublés par les agissements de faux enseignants. Jean leur écrit afin de les rassurer. Mais pourquoi ces chrétiens devaient-ils croire aux paroles de l'apôtre et non à celles des autres prédicateurs? Pourquoi pouvaient-ils faire confiance à Jean plus qu'aux faux enseignants? Jean nous donne une très bonne raison. Nous pouvons le croire parce qu'il a vu Jésus de ses propres yeux. Jean a passé quelques années de sa vie à suivre Jésus de près. Il est devenu un de ses proches amis. Jean a vu Jésus accomplir des miracles et des prodiges. Jean a écouté l'enseignement de Jésus et il l'a médité durant de longues années pour arriver à une compréhension mûre de la foi chrétienne. Jean a été témoin de la croix et de la résurrection de Jésus. Jean connaissait Jésus de près. Et il en arrive à deux affirmations essentielles. Jésus est le Sauveur du monde et il est le Fils de Dieu. Toute personne qui s'accroche à ces vérités par la foi demeure en Dieu et Dieu demeure en elle. Autrement dit, ces personnes sont des chrétiens authentiques et véritables. Que disaient les faux enseignants au sujet de Jésus ? Ils ont probablement nié qu'il soit le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Ils ont probablement nié l'importance et la suprématie de Jésus pour plutôt diminuer ou dévaloriser sa place et son rôle. Ils ont probablement enlevé Jésus du cœur de la foi en rejetant le fait qu'il soit le chemin, la vérité et la vie pour proposer à la place une fausse religion. Chers amis, il existe encore de nos jours de faux enseignants qui agissent ainsi. Ils n'ont jamais vu Jésus. L'apôtre Jean, quant à lui, l'a vu de près. Et nous devons donc, de ce fait, croire en ses paroles. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Sauveur du monde. Ce sont les fondements de la foi chrétienne. Et tous ceux qui s'écartent de ces fondements ne demeurent pas en Dieu.
Merci Claude. C'est ainsi que nous devons terminer notre émission. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.